Sans contrôle, le podcast 100% excellent.
Loco Pelleros, Pelleros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table... Loïc Folio, West France. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Nicolas Mangeard, West France. Un podcast présenté par Simon Ronboit, It West.
Salut les amis, salut Loïc Folio.
Salut.
Loïc qui s'occupait des notes des Nantais face à Metz pour West France. 2 sur 10 pour Mollet, 2 sur 10 également pour Coco, pas de jaloux. Et 2 nouveaux amis pour toi Loïc.
Un peu généreux peut-être.
Salut Pierre Arnaud Bar.
Salut Simon, bonjour tout le monde.
Alors la journée catastrophique, hein, dimanche dernier à la Beaujoire pour Pab, il a été confondu avec David Philippot en tribune par un supporter.
Non mais c'est terrible, alors en fait dans ce genre de cas, bah, faut juste être humble et tu dis bah oui bonjour et tu fais signe et puis
t'as
voilà,
même pas essayé d'expliquer quoi.
Non.
Le mec mais... est parti en pensant que tu étais David Philippot physiquement.
Tu ravales ta fierté.
Ah ouais, mais en fait mais ça fait un moment qu'on me dit, Pab, tu commences à perdre tes cheveux, fais gaffe.
Et là, il est arrivé par derrière.
Je me dis qu'il était au-dessus et c'est... je me suis dit, il a confondu.
C'est étonnant parce qu'il y en a un de vous qui est quand même beaucoup plus beau que l'autre, alors ouais. Je dirais pas lequel, mais...
On est peut-être pas d'accord d'ailleurs. Salut Nicolas Mangeard.
Salut tout le monde.
Enfin, tacticien, Nico nous a décrypté le match des Nantais. Je dévoile au grand public ce SMS qu'il nous a envoyé juste au coup de sifflet final. C'est quoi le plan de jeu ? Point d'interrogation. Attendre un exploit de Moses Simon ? Point d'interrogation. Voilà, on attend du grand Mangeard maintenant, les amis, aujourd'hui. Allez, on salue le fan des Canaries qui nous écoute.
On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose.
C'est pas du soprano, un truc comme ça.
Avant voilà. Que nos cœurs explosent. On se fait du mal.
On se fait du mal, faudrait en tout cas, le titre.
On se fait du mal.
On se fait du
mal.
C'est Soprano.
On se fait du mal.
C'est Radio East West.
Là, on est vraiment des vieux.
Ça danse, hein, les gars. Black M.
Ah, Black M.
Maintenant, la voix, là, maintenant que tu le dis.
Ouais, tu l'as. Mmh. Ah, oui. On est tous un peu maso, en fait, les copains. On se fait du mal à regarder inlassablement ce FC Nantes. C'est au menu de ce 28e épisode saison 5 de Sans Contrôle. On débriefe d'abord la purge Messine, la compo de Gourvennec. L'avez-vous trouvé frileuse ou pas ? Que dire du coaching pendant le match ? Et les joueurs, ont-ils un mental en carton ? Y a-t-il des leaders sur le terrain quand ça part en sucette ? Deuxième partie qui concernera la situation du FC Nantes, et donc l'avenir. Est-ce que c'est à nouveau périlleux pour les Canaries ? Le classement est-il en trompe-l'œil ? Quelle est la responsabilité de Gourvennec ? Peut-il faire jouer cette équipe autrement ? Enfin, les Canaries doivent rebondir à Marseille. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour jouer l'OM, qui reste sur 3 succès ? Comment se passe l'adaptation d'un ancien Nantais, Quentin Merlin, dans son nouveau club ? Un expert de l'OM nous donnera son avis, Mathieu Grégoire du journal L'Équipe, avant ce Marseille-Nantes qui arrive dimanche. Allez messieurs, c'est le carnaval dans les rues de Nantes en ce moment. Dimanche, un magnifique sous-marin inspiré de Jules Verne a même conclu la parade. A priori, il n'était pas jaune ce sous-marin et il n'avait pas l'intention de couler, lui.
Hey, oh. Faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non ?
Hey, oh, let's go !
Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Les Canaries ont été en dessous de tout face à Metz. On débriefe cette vilaine défaite 2-0 à travers les choix de Gourvennec sur ce match, l'attitude et le niveau des joueurs.
Chaque fois que j'arrive, c'est la catastrophe. J'arrive en terrain de passe, j'ai
la catastrophe.
Catastrophe.
Ça va finir.
Ah, je sais pas. Qui a fait la programmation musicale cette semaine là ?
C'est Lorenzo, c'est du rap. Il était à la soirée Orelsan à Poupée. Hein, pour
Orelsan,
ceux qui étaient
je
à
connais,
Poupée.
Ça va, mais ah, voilà.
C'est un épisode spécial Loïc Folio.
Il était à la fiche.
Je suis complètement largué.
C'était très grossier, mais vous n'avez pas entendu les paroles, tant mieux. C'était catastrophique, effectivement, dimanche. Alors pourquoi ? On va commencer, Loïc, avec la compo de Gourvennec. Cette défense à 5 à domicile contre Metz, l'avant-dernier de Ligue 1. Est-ce que c'était trop frileux ou pas ? Est-ce que ça nous a surpris ?
Surpris non, parce que en fait, on peut reconnaître une chose à Jocelyn Gourvennec, et c'est pas un jugement de valeur, d'appréciation ou quoi que ce soit, c'est d'être cohérent par rapport à ce qu'il dit. Et on a bien compris, dès la conférence de presse précédant ce match contre Metz, bah, qu'il cherchait encore une fois à se rassurer défensivement. Il avait cette volonté de conserver son bloc et de pas prendre de but. Et il a été plus ou moins conforté par Jean-Charles Castelletto juste avant, qui dit oui, effectivement, on est peut-être pas beau à voir, mais au moins on prend des points, on se rassure comme ça. Et
ça Gourvennec, bien marché,
nous a... ouais, non mais ça c'était à Lorient, ça c'était à Toulouse, et ça c'était à l'extérieur. Loïc.
Attends, je suis pas en train de te dire il fallait faire ça. Je dis juste dans l'approche de Jocelyn Gourvennec et sa réflexion, je pense qu'il se trouve cohérent avec lui-même. Et puis encore une fois, j'ai l'impression qu'on s'attache avant tout à vouloir rester, à se rassurer défensivement, à vouloir rester hermétique. Mais c'était Metz en face.
On a posé la question sous forme de sondage sur Twitter. Pour vous, la défaite 2-0 du FC Nantes face à Metz, c'est d'abord quoi? Un match raté, ça arrive. 3%. Choix frileux du coach, 72%. Grande majorité. Petit mental des joueurs, 17%. On en parlera tout à l'heure. Et les limites de l'effectif, la qualité de cet effectif, 7% seulement.
Je voulais juste rajouter, pour conclure là-dessus, c'est que Gourvennec nous dit... oui, mais on discute beaucoup avec les joueurs aussi et c'est très important d'avoir leur ressenti. Si on le suit, ça veut dire que les joueurs sont aussi demandeurs.
Oui, mais on a posé la question, on était ensemble, Loïc, à Nicolas Pallois, par exemple, ouais, après la rencontre.
Il a dit, je sais pas, faut demander au coach.
Est-ce que tu préfères jouer à 5? Est-ce que toi, tu valides ça? Je sais pas, faut demander au coach. Il a pas soutenu particulièrement cette démarche-là, Pab.
Non, mais je rejoins ce qu'a dit Loïc. En fait, le problème de ce système-là, c'est que t'as gagné à Lorient comme ça, t'as gagné à Toulouse comme ça, et t'as été plutôt cohérent malgré les défaites contre Paris. Donc en fait, tu es dans la continuité pour rejoindre la mentalité de Jocelyn Gourvennec. Pour lui, il se dit, j'ai pris des points comme ça, j'ai marqué des buts et je me suis créé des occasions quand même, mine de rien, comme ça. Bah, autant continuer. Ouais, après, le problème, c'est que quand tu perds... Non, mais c'est pas... je te dis pas que je suis d'accord avec
non,
ça.
Non, vous vous succédez non, pour expliquer ce qu'a fait Gourvennec.
Ouais, on n'est pas en train de cautionner.
Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Vous en pensez?
Non, on n'est pas en train de cautionner du tout.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix face à Metz?
Mais non, mais on est d'accord que Jocelyn Gourvennec est cohérent dans ce qu'il fait, mais on a le droit quand même de dire que ça nous emmerde, quoi, d'avoir une équipe qui cherche pas...
Mais on n'a pas dit le contraire.
Qui cherche pas à aller vers l'avant, qui cherche avant tout à défendre, qui propose plus rien. Moi, j'ai regardé... Alors là, c'est contre Metz à domicile. On joue quand même contre
c'est calamiteux
de Ligue 1 qui n'a pas gagné depuis 3 mois et
qui prend des buts contre tout le monde.
Prend des buts contre tout le monde et
la question c'était pas qu'est-ce que vous en pensez.
La question c'est est-ce que c'était trop frileux ou pas, Loïc, hein.
Non, mais il y a quand même des stats qui sont catastrophiques. C'est qu'avant le match, Metz c'est la pire possession de balle d'Europe, 35%.
Exactement.
À la Beaujoire, ils finissent à 53% de possession. Ça veut dire que tu as laissé le ballon l'équipe qui le veut le moins.
Qui n'en veut pas.
De toute façon, on avait parlé avec Loïc avant le match, on s'était dit qui va vouloir la balle dans ce match. C'est des deux possessions moches. Parce que, quand même, Nantes, sur le dernier match, c'est à peu près 25% de possession de balle. Hein. C'est catastrophique. Et sur toutes les lignes statistiques, ils ont 47% de possession, Nantes. 416 passes à 486 et 9 tirs à 13. En fait, dans toutes les lignes statistiques, c'est Metz qui est devant.
Manu Katz nous dit « L'impulsion doit venir de la compo de début de match. Partir avec une équipe aussi défensive pour jouer Metz, c'est une hérésie. Ne pas changer la moitié de l'équipe à la mi-temps en constatant le peu de jeu et en est une autre. » Ça, on va reparler du coaching. Arnaud nous dit « Si à domicile, tu comptes pas jouer pour gagner contre une des pires équipes de France, possédant la plus faible possession d'Europe, à laquelle tu as l'occasion de mettre plus de 10 points. » Parce que c'est vrai qu'en cas de succès, tu prenais...
Voilà. Tu les mettais à 11 points.
Et John McLean nous dit « Faut arrêter avec le coach. À 3 dans l'axe, on a du mal. Avec ce 4-4-2, ce serait une cata niveau possession. Le problème vient de l'effectif trop faible. C'est un autre avis sur l'effectif dont on parlera tout à l'heure. Pab.
Je reviens pour peut-être chercher une excuse à Jocelyn Gourvennec.
Encore
d'avant-match, c'est qu'au match aller, on y était avec Nicolas Mangeard. Ils avaient joué. Alors là, toutes les stats, c'était l'inverse. 67%
c'était
de possession.
C'était le match aller.
67% de possession globalement et 615 passes à 308. Ils avaient fait le jeu. Ils s'étaient fait ouvrir de manière ridicule. Ils avaient perdu 3-1. Et c'était, alors j'ai retrouvé les papiers du match aller, c'était pour eux le pire match de la saison. Et Jean-Charles Castelletto l'a dit vendredi, c'était le pire match de la saison. Ils avaient joué et s'étaient fait prendre en compte n'importe comment.
Nicolas Pallois avait été en grande difficulté, notamment dans le dos.
Mais ça, on le sait.
Il y avait une dynamique en plus qui était autre à ce moment-là, parce qu'on sentait quand même que l'équipe était un peu en perte de vitesse sur cette phase-là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de prendre des points eu égard au calendrier. Vous êtes à domicile contre Metz,
ouais,
et plus que le système, moi, c'est le choix des joueurs et de leur qualité pour aller proposer du jeu à la Beaujoire.
Mais surtout quand
il y a encore 27 000 spectateurs qui viennent pour voir ça.
Alors, on rentre dans la compo, Loïc, justement. Quels ont été les choix de Gourvennec avant ce match-là?
Les choix de Gourvennec, ils sont simples. On ne met plus Castelletto, piston droit, comme à Lorient. On le fait réintégrer l'axe. Et du coup, on met Coco, qui a un profil un peu plus offensif, en théorie. Et puis surtout, on réincorpore Florent Mollet, qui avait disparu depuis Toulouse.
Il avait été hors du groupe, puis remplaçant à Lorient, et là, titulaire.
Remplaçant, et il a été quand même en grande difficulté. Et c'est surtout qu'on n'a pas cherché, je trouve, à aller mettre la pression sur cette équipe messine, qui est quand même d'une fébrilité incroyable. Quoi.
Le choix de mettre Kadewere
dans la tête.
Le choix de mettre Kadewere et Traoré sur le banc, oui. On peut l'interpréter en se disant il veut contrôler cette première partie de match et il fera rentrer les flèches après. Mais il en a tellement de flèches et d'éléments offensifs. Il a Bamba, il a Moses Simon qui jouait, Mohamed, Traoré, Kadewere, enfin voilà, il en a fait jouer que deux.
Après, le problème, c'est que à partir du moment où il fait le choix de jouer dans ce système-là, il joue qu'avec deux attaquants et effectivement, Simon et Mohamed sont les deux attaquants qui correspondent le plus, ou en tout cas qui sont les plus forts actuellement, je pense, pour jouer dans ce système-là. Donc, il est un peu contraint par le choix qu'il fait. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette frilosité au moment où il faut prendre des points. Aujourd'hui, qui prend des points dans le bas de tableau? Lorient a pris pas mal de points récemment. Ouais. Aux dernières nouvelles, Lorient essaie de jouer.
En jouant.
Toulouse fait quoi? Joue, prend des points. Ouais. Metz, on peut leur reprocher beaucoup de choses, de jouer notamment qu'en transition. Mais ils jouent en transition, ils ont réussi à prendre
des
points.
C'était catastrophique la première période, le niveau technique des Messins comme des Nantais.
Est-ce que tu as vu les Nantais essayer, toi? Moi, franchement, j'avais l'impression que c'était on donne la balle à Moses Simon.
Et d'ailleurs, on va écouter Nicolas Palois nous parler de ce match-là. Et l'une des phrases fortes, il a joué pour ne pas perdre ce match.
On devait de pas perdre ce match. Voilà, on est passé à travers. Après, voilà, on va dire que c'est un accident. Même les centres, il y en a quelques-uns qui passent au deuxième, troisième poteau. Je pense qu'il faut être un peu plus juste. Après, c'est comme ça. L'envie est là. Des fois, ça tombe au deuxième, il n'y a personne. Donc, c'est comme ça. Il faut continuer à travailler et ça va rentrer.
C'est vrai que le troisième poteau, c'est un peu long pour les centres, on est d'accord. Le déchet technique, il en parle. Et puis, sans doute qu'on a joué effectivement pour ne pas perdre et espérer un contre et gagner 1-0.
Mais t'as une équipe qui est en panique, en fait.
Ouais, exactement.
Enfin, c'est dans la suite logique du changement d'entraîneur de Pierre Aristouille pour Jocelyn Gourvennec, où tu avais Franck Ita qui est venu dire au micro on est en panique, en gros.
On stresse.
On ne veut pas revivre une deuxième partie de saison comme les autres années, bah, c'est raté du coup. Mais ils sont en panique, ils sont perdus. Et en plus, tu changes complètement de philosophie en cours de saison. Alors, tu changes de coach, tu changes de philosophie. Tu as Pierre Aristouille qui prenait du jeu, des passes de la possession. Là, tu as un entraîneur qui joue la défense. Tu sens que tout le monde est recroquevillé en disant bah, si déjà on prend pas de but, on va peut-être pouvoir en mettre un et peut-être prendre des points. Et en plus, ça a marché. Sur les derniers matchs en fait, à l'extérieur contre Toulouse et à Lorient, ça a marché.
On va écouter Nicolas Cozza nous parler de la défense à 5, Loïc, et tu pourras réagir derrière. Le nouveau latéral gauche des Canaries, qui jouait piston gauche cette fois, apprécie, il aime bien ce système.
Le schéma à 5, ça fait plusieurs matchs maintenant qu'on le joue. Il a fait ses preuves, on a gagné des matchs à 5, donc je pense pas qu'il y avait une volonté justement d'être défensif ou d'avoir peur, quelque chose comme ça. Non, on est sûr de nous, il nous reste 10 matchs, ça va être 10 finales, donc voilà. Je pense qu'on utilise bien l'aspect offensif sur ce schéma de jeu aussi, qui correspond bien à l'équipe, donc on va continuer comme ça, je pense.
Alors, est-ce qu'il nous fait de la com et de la langue de bois, ou est-ce qu'il est vraiment convaincu par ce qu'on a vu contre Metz, là, franchement?
J'espère pour lui que c'est la première solution, quand même, qu'il est dans la com et la langue de bois, parce que sinon c'est franchement grave. Moi, je pense que Nantes aussi est encore un peu, entre guillemets, traumatisé par sa défaite à domicile contre Clermont face à un autre
début janvier.
Ouais, il avait
début
dit janvier. Castelletto avant le match, hein, de toute façon, il en a parlé de ce match.
Ouais, et qu'ils cherchent encore une fois. Mais ils sont en panique, voilà.
Mais ils ont été gagnés petit.
Les moindres sauvetages
auxquels
s'accrocher, ouais.
Et Jocelyn Gourvennec, en conf de presse après le match, il dit ce match-là, c'est le constat qu'on a. Une équipe qui n'est pas guérie, t'as une équipe qui est malade, et tu le vois de toute façon.
Entraîneur compris, parce qu'il a été frileux. On va écouter, tiens, Gourvennec, justement, sur Florent Mollet, tu vas réagir, Nico. Il a fait ce choix de réintégrer Florent Mollet, Loïc en parlait, et de le laisser tout au long de la rencontre. Et quand on l'interroge après match sur le sujet, d'ailleurs, il s'est un petit peu braqué, il m'a dit « Et pourquoi vous comprenez pas le choix ?» Non, j'interroge le choix.
Flo, il a été moins bien pendant un moment, il le sait. Il a continué malgré tout à très bien s'entraîner, à montrer des choses intéressantes cette semaine, et ça prouve aussi qu'il n'y a jamais rien de figé. Alors, il profite certainement de la suspension de Moussa, qui prend beaucoup de place dans notre équipe et dans le groupe. Mais Flo a répondu présent.
On n'a pas forcément vu le même match. On se regardait, Loïc, pendant la rencontre. Coco et Mollet étaient les deux joueurs au bout d'une demi-heure qui avaient déjà perdu 10 ballons, je crois. Et voilà, c'est un choix qu'on peut interroger, Nico.
Ouais, après, il ne peut pas nous dire autre chose. Jocelyn Gourvennec, il le sort pendant 3 matchs, il le remet, il ne va pas nous dire qu'il a été catastrophique. Mais
il le laisse longtemps aussi.
90 minutes.
Chirivella sort à l'heure de jeu.
Moi, c'est peut-être sur ce choix-là où je vois un petit manque de cohérence dans ce que fait Jocelyn Gourvennec et où je me questionne sur qu'est-ce qu'il veut faire avec cette équipe offensivement, parce que finalement il remplace Sissoko par Mollet. On peut envisager ça comme un choix un peu plus offensif, entre guillemets, mais au final dans les faits ça se traduit pas du tout par ça. En fait, on n'a pas vu un Mollet, et d'autant qu'il le recentre alors que ça faisait quelques temps que Mollet avait plutôt pris l'habitude de jouer à un poste d'excentré. Moi, je trouve que dans la manière dont il a construit son équipe pour ce match, en fait, à force de vouloir commencer par derrière, il en vient par oublier ce qui se passe au milieu et devant, et les choix sont pas forcément pertinents.
C'est la question de Bailey sur Twitter. Mollet est-il encore capable de jouer en 10? En fin de match, il a même tiré 3 corners qui sont pas arrivés au premier poteau. Il était cuit et c'est triste de l'avoir vu jusqu'au bout.
Bah oui, c'est cette scène de la dernière minute, là, en plus, quand le public grondait, c'est quand même un peu triste. Moi, ce qui m'interroge sur ce match-là, c'est qu'en plus, Jocelyn Gourvennec a passé son mois de janvier à dire qu'il voulait réoxygéner l'équipe avec le mercato. Et finalement, tu n'avais que Kozza et qui est un remplacement numérique, puisque Quentin Merlin est parti à Marseille.
Seul recrue qui jouait.
Voilà. Donc, tu as une recrue, mais qui remplaçait un joueur parti. Et les joueurs qui sont censés t'apporter.
Amiens est blessé.
Oui, mais tu as Traoré et Kadewere qui sont là.
Sur
et
le
comme
banc.
Disait Nicolas, ils auraient très bien pu jouer aussi. Tu prends Toulouse, par exemple, les deux jouaient sur des côtés. C'était une défense à 5 déjà, mais tu avais ces deux-là qui étaient sur les côtés, parce que bon, Simon était à la canne, mais ils apportaient de la vitesse. Kadewere, on l'avait vu déborder plusieurs fois. Traoré, tu vois que sur la percussion, il est capable de te faire remonter le bloc. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment vu une équipe qui défendait et qui se disait, bah, sur un malentendu... On va peut-être faire la différence et on gagnera 1-0 comme on l'a fait les autres
fois. Sur un malentendu, tu files la balle à Simon et puis
voilà.
Viennent que pour.
Sauf qu'en fait, t'es mené 1-0 et tu sais très bien
que ça peut marcher.
Il fait quelques actions, Simon, son centre pour Mohamed en première.
La tête de Mohamed, la seule occasion nantaise finalement de sa première.
Il a une frappe, Simon, aussi lancée par Mollet.
Qu'est-ce que c'est restrictif comme vision du jeu?
Mais c'est surtout qu'une fois que t'es mené 1-0, est-ce qu'il y en a un de vous là autour du micro qui a pensé que Nantes allait égaliser?
Alors franchement, c'est simple,
n'égalise jamais.
J'ai la stat, mon Pab. Ce truc-là. En 24 matchs, le FC Nantes a concédé 14 fois le premier but sur les 24 matchs. Sur ces 14 fois, deux fois, Nantes a pris des points. C'était sous Aristouille, c'était en septembre dernier, une éternité, face
contre
à Marseille,
Lorient,
un partout, et puis contre Lorient, 5-3. Depuis, plus rien. 11 fois, Nantes a pris le premier but. 11 fois,
terminé.
Nantes a perdu, terminé.
Oui, terminé. Et tu l'avais déjà, c'est marrant. Parce que
c'est récurrent.
Mais oui.
C'est pas de cette saison. Ça dit beaucoup de choses.
Tu prends un but, tu sais que c'est fini.
Ouais, exactement.
Tu paraphrases encore Jean-Marcel, c'est déposé. Hein. Ça dit, qu'est-ce que ça dit de nous?
Non, mais c'est vrai que cette équipe qui se recroqueville et qui, si elle prend un but, ne sait plus quoi faire, elle va perdre.
Quand elle jouait, parce que je te dis, je regardais les papiers du match aller. Aristouille, après le match aller à Metz, il dit, une fois qu'on est mené au score, on sent qu'on ne va jamais revenir.
Mais et à Metz, tu égalises. C'est un peu le...
Bah, t'égalises, mais
tu égalises là-bas.
T'égalises après 12 minutes, tu prends le deuxième 20-26 par là, et tu sais qu'une fois que t'as pris le deuxième, tu ne reviendras pas.
Ce qui est gênant sur le match de dimanche, c'est qu'à partir du moment où Metz marque... Je pense qu'on est tous pareils, on sait que c'est fini.
Oui, il se passe plus rien.
On sait que Nantes va parvenir.
Bah, non, mais on s'attend quand même à ce qu'il y a des changements.
Quels sont les moyens? Quels sont les leviers pour un coach?
Radicaux.
Le coaching. Loïc, Comines nous dit, les problèmes, ce sont les choix. De ne pas sortir Mollet ni Coco à la mi-temps. De sortir Mohamed alors que tu vas être obligé de dominer un peu, de t'exposer
ça,
davantage
même,
et d'avoir un joueur dans la surface comme Mohamed qui peut être clinique. Eh bien, tu le sors et tu fais du poste pour poste et ils sont restés à 5.
Tu ne sors pas un défenseur central.
Exactement. Mais par exemple, Nicolas Pallois, qui est en difficulté quand il y a de l'espace dans le dos.
Pop Simon.
Non, mais on le sait.
Il y a des trucs qu'on peut dire.
Dès qu'il y a de la prise d'espace, dès qu'il y a de la profondeur, la vitesse, bah, Nicolas Pallois, il est en difficulté. Mais ça, on ne le découvre pas. Il joue avec ses qualités.
Et il est rayonnant quand tu subis.
Exactement.
Bon, c'est pas le choix qu'a fait Gourvennec.
C'est pas le choix qu'a fait Gourvennec.
Il s'est trompé sur ce match-là, très certainement, les amis. On se le dit. Les joueurs, allez, intéressons-nous aux joueurs. On reparlera de Jocelyn Gourvennec pour la suite de la saison dans la deuxième partie. Ont-ils, ces joueurs, un mental en carton? Cette équipe sait-elle réagir? Ou bien il n'y a pas de plan B? Ils sont incapables de revenir quand ils sont menés. On a donné la stat. Est-ce que vous voyez, on va aller un petit peu plus loin, des leaders dans cette équipe? On va écouter Marcus Coco. Il est venu, et il est l'un des rares d'ailleurs, à avoir assumé de venir au micro, parce que c'est encore autre chose. Ils se sont cachés après match. Pour assumer une telle défaite, on a pris des portes dérobées. Coco lui est venu, donc saluons déjà ceci. Et Il nous a dit qu'il y avait un petit peu un sentiment de supériorité, c'est incroyable d'entendre ça, de la part des Nantais, parce que c'était Metz en face.
On s'est mis en difficulté déjà mentalement, on n'a pas abordé ce match-là comme les précédents, et je pense que ça se joue déjà là. Les équipes qu'on considère meilleures que nous avant le match, je pense qu'on a tendance à mieux performer face à elles. Et là, aujourd'hui, on se disait voilà, supérieur à eux, et du coup, on avait cette crainte de ne pas faire d'erreur, et c'est ce qui s'est passé. Voilà.
Donc quand Nantes est supérieur, on stresse de ne pas faire d'erreur, de perdre contre un plus petit. Moi, c'est ce que je comprends de Marcus Kokopab.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, Jean-Charles Castelletto l'a répété tout au long de la conf de presse d'avant-match. Il a dit « on doit aborder ce match avec humilité ». Il a dit « on a compris, on avait fait des erreurs, on était trop joueurs, il a pris l'exemple du match de Clermont, on a trop voulu gagner,
mais non.
Et du coup on a perdu ».
Mais non.
Mais là, on fait vraiment attention. Et, bah, tu
non,
vois,
mais il n'est pas en train
bien.
De te dire
mais je
ne
suis pas
normal.
D'accord avec ça. Clermont, mais... tu peux le rejouer 10 fois, tu le gagneras 8 fois. Oui, il faut sûr, jouer au sûr, foot. Et parfois, là, tu te fais planter, c'est pas grave.
Et sinon, t'es puni. De toute façon, sinon, t'es puni.
Oui, et là, t'as pas joué, t'es puni. Et je pense, effectivement... Mais après, c'est une ambiance un peu générale. On s'est tous dit, quand tu vois que t'as Metz, quand même, il faut dire Metz avant de venir à la Beaugeoire, c'est 9 défaites et 1 nul sur les 10 derniers matchs. Ouais. C'est
oui, mais
catastrophique.
Mais le FC Nantes en l'état aujourd'hui, je suis désolé, il est tout aussi malade que
mais
le
non,
FC Metz.
T'as eu deux petits miracles à Toulouse et à Lorient.
À Toulouse, on en reparlera peut-être dans la deuxième partie, mais à Toulouse, c'est quand même un petit miracle de gagner avec le match qui est fait, et c'est lié au scénario du match.
À des exploits individuels.
À des exploits individuels. À Lorient, on va pas y revenir, mais bon, il y a 1-0, c'est quand même pareil. Si ça finit un partout ou si ça finit sans une victoire nantaise,
ouais, c'est pas un hold-up non plus.
Tu vas pas gagner 3-0
en faisant du jeu. Ce que je veux dire, c'est que Nantes aujourd'hui, si les Nantais croient vraiment qu'ils sont supérieurs au FC Metz, faut déjà qu'ils regardent le match aller, parce qu'ils avaient montré qu'ils n'étaient pas supérieurs au FC Metz, et il faut qu'ils se souviennent qu'aujourd'hui, ils perdent presque autant de matchs. C'est l'une des pires équipes de ce championnat aujourd'hui, le FC Nantes.
Il faut aussi
voir la réalité en face. Et s'ils abordent le match contre Metz en se disant on est supérieur, moi ça me pose question. Hein.
Je suis pas sûr que ce soit ça. Je suis pas sûr que c'est aborder le match en disant on est supérieur, je pense que cette équipe-là aborde ce genre de match en disant c'est un must-win, il faut le gagner absolument, et c'est une équipe qui se crispe quand c'est comme ça. Clermont, typiquement, tu vas à la Beaujoire pour affronter Clermont, Nantes, tu étais déjà malade, et tu te dis ce match-là, Clermont, il faut le prendre. Quand tu joues des équipes derrière toi alors que tu es déjà très très mal classé, tu dis ces équipes-là, il faut les battre.
Bah, je sais pas, Palois nous a dit tout à l'heure, il faut pas perdre. Coco nous dit là.
Au moins ne pas perdre et éventuellement gagner.
Ouais,
là, tu te fais avoir. Et je pense que t'es crispé. Ce match-là contre Metz, tu t'es crispé.
Donc
parce
c'est une
que
équipe
dis,
qui ne sait jouer que dos au mur, avec un exploit. Ouais, et en mode Coupe de France, t'es petit.
En disant que tu n'as rien à perdre. Quand il dit les gros, on y va avec une autre mentalité. C'est que Paris, personne n'attend à ce que Nantes batte Paris. Si tu le prends, c'est bonus.
C'est ça, c'est Coupe de France à chaque fois. Quoi. T'es le petit contre un gros.
Contre Lens, tu dis peut-être que tu vas prendre un truc, exactement.
On va parler de la responsabilité de l'entraîneur. Faudra pas oublier, après...
Là, on est sur les joueurs et leur mental.
Justement, c'est ce que j'allais dire. Celle des joueurs. Ça fait, combien de joueurs là sont là depuis 3-4 ans à jouer le maintien? Ils étaient là aussi l'année dernière. La plupart d'entre eux, avoir fait nul contre Ajaccio, fait nul contre Troyes.
Perdre contre Strasbourg.
Exactement. C'est l'équipe des rendez-vous manqués aussi.
Mais c'est dès qu'ils sont favoris d'un match, ils ne gagnent pas.
J'interrogeais le leadership de certains dans cette équipe. Quel est l'état mental des leaders? Chirivella, capitaine fragilisé. Les choix de Gourvennec de le sortir régulièrement, il est moins rayonnant sur le terrain. Je pense que mentalement, il est un petit peu moins dedans.
Il ne joue pas non plus.
Non, puis déjà Chirivella.
Sur le leadership, qui pourra aboyer quand tu prends un but, remobiliser les troupes? La stat sur les 11 dernières fois que tu prends un but, c'est terminé.
Même
c'est-à-dire qu'il y a personne.
Mais tu vois, Chirivella, c'est intéressant parce que c'était un leader sous Pierre Aristou, déjà parce que c'était son principal relais, aussi parce que l'équipe cherchait à jouer. Et que techniquement, Chirivella était un leader technique de cette équipe, et donc comme il ne va pas forcément être l'aboyeur, mais comme techniquement il menait l'équipe, et il arrivait à rayonner, et qu'il a été fragilisé. Je me souviens après le match à Lyon, je crois, juste avant Noël, où il vient en zone mixte, Pedro Chirivella, et il est complètement désemparé. Il nous dit mais c'est pas possible, ça fait plusieurs années que je suis là, c'est toujours la même chose, on se fait toujours avoir de la même manière.
Aussi en coupe,
et donc Pedro Chirivella, lui, sa manière d'être un leader, c'est dans le jeu, et aujourd'hui il peut pas l'être. Avec 25% de possession, c'est impossible pour lui.
Il l'a dit tout à l'heure, Gourvennec, il a dit, il parlait de l'absence de Moussa Sissoko en disant on sait l'importance qu'il a dans l'équipe. Si quand Moussa Sissoko, c'est ta pierre angulaire du milieu de terrain, tu sais que tu vas pas faire du jeu. Enfin voilà, tout est dit. Hein.
Loïc,
sur Pedro Chirivella, moi je...
Sur le leadership, leader, ça peut être Castelletto, ça peut être d'autres, à remotiver les troupes pour repartir.
Sur Chirivella, je pense qu'au bout d'un moment, il est usé, épuisé, il a le sentiment d'avoir de devoir prendre le jeu à son compte parce qu'il prêche lui aussi dans le désert. Et souvent, bah, qu'est-ce qu'on voit faire? C'est envoyer des longs ballons devant en profondeur en première intention, Simon. C'est pas lui qui va remonter les troupes. Moi, j'attendais. Je pense que Douglas Augusto aussi est en train de s'épuiser. Lui, il peut mettre de l'agna, qui peut mettre un peu de pression sur les arbitres. Il le fait pas.
Moins. Souvenez-vous, à la fin, il y a des Messins qui restent au sol. Il n'y a personne pour aboyer.
Exactement. Il n'y en a pas dans cette équipe.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ou il n'y en a plus, où ils sont un peu saoulés.
C'est
comme les supporters. Vous avez entendu les sifflets de la Beaujoire, la tribune noire qui était fermée, ça n'a pas aidé non plus, merci l'incompétence de la Ligue, il y avait moins d'ambiance, et puis mentalement, tout le monde est en train de flancher avec cette équipe. Ce qui
se dégage aussi de cette formation, c'est la résignation. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure en préambule, c'est tu prends un but, tu sais généralement que tu n'as quasiment aucune chance de revenir. Mais au-delà de ça, dans les attitudes, moi je vois des joueurs qui regardent leur pompe, qui ont l'air complètement perdus.
Ouais.
Alors que tu regardes, enfin moi je discutais avec un confrère messin en quittant le stade dimanche, il disait mais les gars, bah Nantes vous avez une belle équipe, vous avez des beaux joueurs. Hein. Parce que Metz, tu peux comprendre qu'ils jouent le maintien. Tu regardes la feuille de match, sans leur faire offense, t'as pas de tête d'affiche. Hein.
C'est quoi la qualité de cet effectif, Van de Kerkhoff,
qui sont intéressants. Ouais,
on va parler dans un instant du classement en trompe-l'œil et sur le niveau de cette équipe, la Coupe de France en trompe-l'œil peut-être aussi, parce que le niveau de ces joueurs, c'est de jouer le maintien tous les ans. C'est ce dont on se rend compte, Pab. Ouais. On en parle justement.
Nicolas Mangeard, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Loïc Folio, Ouest France. Simon Rongoat, Eat West. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
On devrait peut-être changer de jingle parce que nous sommes fiers de vous.
Ah, il continue de chanter. Il continue de chanter malgré tout.
Mais
la fierté, peut-être qu'elle commence à s'étioler un peu. La situation du FCN à nouveau périlleuse, le classement en trompe-l'œil. Gourvenec qui s'est excusé. Quelle est sa responsabilité pour la suite? Peut-il faire jouer cette équipe autrement?
Oh, c'est Yannick Noah.
Bien sûr. Yannick Noah pour Loïc Folio.
Me demande pas le titre.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Loïc?
J'avais la concept 3, j'avais le poster de Yannick Noah quand j'étais.
Non mais. Chez les Folios, c'est Yannick Noah à pleine balle, hein, je peux vous dire.
Attends,
c'est
la fête. Tu peux pas la laisser en entier.
Donc il l'a dit 12 fois, c'est ose le titre, évidemment. À défaut d'avoir osé pour réussir, ce FC Nantes gagne petit, a tout perdu et s'est remis dans la sauce. La situation des Canaries est-elle à nouveau périlleuse? Une semaine seulement après le succès à Lorient, Nicolas, au classement, Nantes est 14e, 25 points. On va regarder les deux derniers, Metz et Clermont, 17 et 20 points. Donc tu as 5 points d'avance sur Metz désormais. Montpellier, qui est en dessous du FC Nantes, est à 23 et Le Havre à 24. Donc deux points d'avance sur cette position de barragiste.
La situation n'est pas dramatique, mais il y a quand même un calendrier sur la fin de saison qui ne va pas être évident pour le FC Nantes. Donc il faut quand même prendre des points en route. Mais moi, plus que le classement, moi, ce qui me choque un peu, j'ai regardé un peu les stats. On a une équipe qui s'est vraiment transformée entre la période Aristou et la période Gourvenec. Avec Aristou, c'était la 5e attaque et la 16e défense de Ligue 1.
Oui.
Avec Gourvenec, c'est la pire attaque et la 7e défense. Donc vous avez vraiment complètement inversé le rapport de force dans votre effectif. Et moi, j'ai quand même tendance à penser, alors je peux me tromper, hein, je ne suis pas entraîneur de foot professionnel, mais que cet effectif, il a quand même plus l'âme et les joueurs pour essayer de produire du jeu. Et que là, en l'état, ce que le FC Nantes fait, c'est pas de cette manière qu'il va réussir à changer ce classement.
Alors, tu as glissé sur la responsabilité du coach et la façon de faire jouer cette équipe. Restons quelques instants quand même sur ce calendrier, Pab, c'est ta spécialité.
Bah, oui.
Et sur les derniers matchs, on l'a dit, qui sont
les trois dernières affiches sont terribles déjà. Hein. Tu fais Brest, Lille, Monaco.
Donc, tu peux déjà te dire qu'il n'y aura pas beaucoup de points sur les trois dernières rencontres. À venir, on a donc un déplacement à Marseille dimanche, la réception de Strasbourg ensuite, qui sera importante, déplacement à Nice, réception de Lyon, déplacement au Havre.
Avec des équipes qui vont bien mieux.
Ouais.
En fait, ce qui est terrible, je trouve, moi, avec Nantes, c'est que tu as beaucoup d'équipes qui font des séries ou qui sont plutôt bien, moins bien. Alors, Lyon, c'est un exemple parfait parce qu'ils ont tout changé au mercato, mais première phase catastrophique et là, ils remontent complètement. Marseille, ils ont une phase où ils étaient terribles, ils changent Gattuso et là, ils sont sur trois victoires de suite. En fait, Nantes, tu as eu une petite série à un moment avec Aristouille quand tu gagnes 4 matchs sur 5. Tu as eu une mini-série, ce que disait Gourvenec avant le match, en disant on a pris 7 points sur 9 à l'extérieur. Super.
Oui, là, tu viens de gagner deux fois à l'extérieur. Voilà. C'est vrai qu'on est un peu catastrophiste.
Heureusement, tu as perdu 5 fois de suite à domicile. C'est la pire série quand même de ton histoire, hein, dans l'élite. de perdre 5 matchs à domicile.
D'ailleurs, 13 défaites sur 24 matchs, c'est aussi la pire série dans l'histoire du FC Nantes. Sur les 24 premières journées en Ligue 1.
Au final.
C'est catastrophique.
Tu fais peu de nul.
Bah, t'es l'équipe de Ligue 1 qui fait le moins de nul. Je crois que c'est 4 au total.
Est-ce que le calendrier t'inquiète, Loïc ? Est-ce que la situation est périlleuse pour le FC Nantes après cette défaite face à Metz ?
Bah oui et non. Le calendrier est inquiétant. Tu vas jouer déjà des concurrents directs. Tu vas aller à Montpellier, tu vas recevoir Strasbourg, tu vas aller au Havre notamment. Oui. Après moi je suis pas un adepte du football fiction, j'en sais rien.
Mais de toute façon les joueurs l'ont dit, en fait en gros t'es nul contre des adversaires directs, donc tu peux espérer qu'ils vont prendre des points peut-être à Nice contre Lille et à Monaco.
Ils ont failli prendre des points contre Paris les deux fois, donc
on est condamné à voir cette équipe recroquevillée tenter de contrer jusqu'à la fin de saison. Ok, merci les gars. On va écouter Gourvennec. Il a présenté ses excuses après le match de Metz pour la production nantaise.
La première chose à faire déjà, c'est de présenter nos excuses à notre public, parce que ce qu'on a fait n'était pas conforme du tout. C'est pas digne du FC Nantes. On a fait un match tout à l'envers.
Les excuses de Gourvennec, en a-t-il des excuses lui-même sur la façon dont il utilise son équipe ? Tu as commencé à aborder le sujet, Nicolas, tout à l'heure. Sonny nous dit « On se bouffe des purges depuis l'arrivée de Gourvennec au FC Nantes. Quand va cesser cette mansuétude de la direction face au néant footballistique et tactique proposé par Jocelyn Gourvennec ? On va dans le mur. Aristou, il n'a pas eu le droit au même traitement et à la même patience. »
Mais en fait, ce qui est compliqué dans la manière de juger ce que fait Jocelyn Gourvennec, c'est qu'à la fois, il est très cohérent et on le voit. L'équipe prend moins de buts. Donc, ce qu'il nous a expliqué depuis le départ, c'est qu'il voulait que le FC Nantes prenne moins de buts.
Septième défense,
ça se matérialise. Donc, sur ce point de notre vue-là, c'est intéressant. Après, la réserve qu'on peut émettre, c'est est-ce que c'est en faisant ça et en étant vraiment très limité dans le jeu, avec un jeu très restrictif offensivement, est-ce que c'est comme ça que le FC Nantes va s'en sortir sur cette fin de championnat ? Et là-dessus, moi, en tout cas, j'ai quelques doutes parce que j'ai quand même tendance à penser qu'au bout d'un moment, le football sort quand même toujours gagnant. Et je trouve
parce
ça...
Parce que tu viens de Rennes, ça.
C'est vrai que là, depuis quelques temps, il faut que je me mouille la nuque avant de regarder les matchs du FC Nantes. Hein, parce que
c'est catastrophique. Non, mais en fait, au-delà des résultats, parce que si tu fais que des saisons à jouer à 5, à bétonner, à gratter un point par-ci, à finir juste au-dessus de la zone de relégation, mais les gens, ils vont plus venir au stade. Attendez, il y a une identité, il y a une histoire dans ce club quand même.
Exactement. Et moi, je suis désolé. La victoire à Strasbourg, la victoire à Lorient, moi, je m'en satisfais pas du tout, en fait. Enfin, je suis désolé, j'ai pris aucun plaisir à regarder ces deux matchs. À Toulouse et à Lorient, j'ai pris aucun plaisir à regarder ces matchs.
On a beaucoup ri quand même.
Et je pense que pour les supporters, c'est pareil. Et ces victoires, elles sont un peu en trompe-l'œil parce qu'elles sont le fruit de scénarios différents. Et moi, je m'interroge vraiment sur la manière dont le FC Nantes va pouvoir s'en sortir.
Parce qu'il a en plus, Nico, tout son effectif à disposition et donc du matos, entre guillemets, pour proposer autre chose, Pab.
Bah, c'est sûr, t'as recruté des attaquants, t'as recruté des flèches. Kedewere et Traoré, c'est censé percuter. Donc,
on se dit qu'avec
ça, ça va pas avec cette stratégie-là.
Mais avec tous ces joueurs-là, fais-les jouer en même temps, ils vont te marquer des buts.
Mais pour rebondir sur ce que disait Nico, moi, je peux comprendre au départ, quand tu prends une équipe qui est dans les pires défenses de Ligue 1, avec en plus un président qui t'a dit « on a peur ». Je peux comprendre, quand t'es entraîneur, de dire « ok, on reprend, comme c'est ce qu'on dit toujours, une équipe c'est comme une maison, tu commences par les fondations, la base, t'es solide, mais après tu dois avoir une phase 2 ». La phase 2, une fois que tu es solide derrière et que tu t'es rassuré, tu as une phase 2 qui est d'aller vers l'avant et d'essayer de marquer des buts et de gagner.
Ce sera peut-être passé à Marseille, mais
tu
as Strasbourg.
Parce que là, t'es bloqué dans la cave à dire « Wow, on reste tous derrière, surtout les gars, il n'y en a pas un qui sort. » Et aussi, allez, vas-y, Simon, va devant. Et puis, sur un malentendu, tu peux donner un ballon à Mohamed.
Enfin, la finalité, c'est que tu as quand même pris 2 buts contre Metz. Hein, donc,
et oui, et en plus, en étant tous derrière, en donnant la main, en disant surtout, tombez pas, tu prends 2 buts.
Parce que tu joues
pas. Tu pouvais perdre 3-0.
Parce que t'as peur.
Tu pouvais perdre 3-0 et ça aurait même pu être pire, parce que si le poteau y entre en première mi-temps, c'est pas une catastrophe.
Mais moi, je peux pas croire que les joueurs ils prennent du plaisir à jouer comme ça. Honnêtement, je peux pas le croire quand on est joueur.
Ils prennent du plaisir à gagner, c'est ce qu'ils nous disent.
Oui, mais je peux pas croire.
Mais là, ils gagnent pas en plus. Oui, mais c'est terrible.
Attendez, quand on est joueur,
c'est parce que t'es attaquant. Non, mais... ça. Moi, je suis défenseur.
Non, mais quand on est joueur et que ça soit professionnel ou pas professionnel et que ça soit dans n'importe quelle discipline, je peux pas croire qu'on prend du plaisir à passer son temps à défendre. C'est pas possible.
Bah, sauf si tu défends bien, que derrière
non,
tu
contre-attaques
bien et tu gagnes des matchs.
Le plaisir de bien défendre ne remplace jamais le plaisir de marquer des buts et de faire vibrer un stade.
Tu parlais de Metz, qui est une équipe de transition. Tu défends, sauf qu'en fait, et Nantes l'a montré, par exemple, avec Comboiré, tu défendais, tu étais solide derrière. Sauf que dès que tu récupères la balle, ça remontait très vite. Tu combinais et
ça dépend des joueurs que tu mets sur le terrain.
Bah voilà.
Tu peux défendre avec Kadewere, avec Traoré, et puis contrer.
On en revient toujours au même. C'est le deuxième étage de la fusée. Et le problème, je pense, malheureusement aussi, que l'entraîneur est conforté par le discours des joueurs, qui cherchent eux aussi à se rassurer. Et on en revient d'ailleurs sur le manque de leader.
Cole nous dit sur Twitter, on a la chance d'être tombé sur un petit Toulouse et un petit Lorient. Ces deux matchs auraient pu tourner autrement. Sur le papier, l'effectif ne joue jamais un maintien à Nantes, normalement. Gourvennec, c'est des stats et une idée de jeu en complet désaccord avec ce dont le FCN a besoin. Et pourtant, il insiste, ce système à 5, il le privilégie. Écoutez ses explications après le match.
Il faut toujours mettre les joueurs dans leurs repères, qu'ils gardent leurs repères. On est sur plusieurs matchs avec beaucoup de cohérence, y compris la cohérence sur les matchs perdus ici contre Lens et contre Paris, contre deux adversaires forts. Après, on peut pas sans arrêt faire le yo-yo. Vous savez, quand on est entraîneur, grosse partie de notre travail, c'est de mettre les joueurs dans une structure où ils se sentent bien, où ils ont des repères. Et là-dessus, on y est. Je crois pas du tout que le débat ce soit aujourd'hui sur l'aspect tactique, structure. On a changé trois fois de structure en deuxième mi-temps, ça a eu aucun effet, il n'y a rien eu. On a été à côté de nos pompes, tout simplement, au mauvais moment et contre le mauvais adversaire. C'est un problème, certainement aussi qu'on a plus de difficultés à prendre le jeu à notre compte. Ça me paraît être évident, quand on est dans des situations et configurations de match un petit peu différentes, cet effectif-là est plus à l'aise.
Nantes est plus à l'aise face aux grosses équipes, il nous le dit à nouveau. Moi, j'ai pas vu trois changements de structure, j'ai vu rester à 5. Je fais pas une fixette forcément sur la défense à 5, c'est sur les intentions que tu donnes, parce que tu peux défendre à 3 et avoir des joueurs de couloir très offensifs.
Et surtout, moi, là où je vois une faiblesse dans l'argumentaire de Jocelyn Gourvennec, c'est qu'il a recruté deux ailiers, joueurs qui peuvent jouer sur l'aile, que ce soit Traoré et Kadewere, et il joue dans un système sans ailier. Pourquoi avoir fait tout un chafouin pour recruter des joueurs offensifs pour...
Tu fais un chafouin.
Tu fais un chafouin, toi.
Tout un foin, pardon.
Un foin ou un tatouin. Chafouin.
Et pour jouer dans un système qui ne leur convient pas. C'est quand même assez étonnant.
Et surtout, tu as le droit de changer aussi avant la mi-temps. Tu n'es pas obligé d'attendre la mi-temps pour changer des joueurs. Là, il a attendu la 59e, je crois, pour faire entrer Traoré.
Il a attendu le premier but, Loïc, et on sentait que cette équipe était en train de plonger. Il y avait des corners successifs pour Metz.
Il lui dit qu'il avait prévu de faire les changements avant le but.
Ouais.
Pendant les corners, mais que généralement tu fais pas les changements sur les corners défensifs.
Non, mais là, on sentait que ça allait plier.
Il se passait rien, les mecs, c'était électroencéphalogramme plat, quoi.
Mais il l'a dit, mais Gourvennec
l'a dit. Tu peux essayer d'influencer le cours du match, quand même.
Gourvennec l'a dit en une phrase en conf d'après-match, il a dit « Aujourd'hui, l'équipe a plus de difficultés quand on doit prendre des initiatives. Voilà. Elle n'est pas capable. »
Oui, mais c'était pas le cas il y a quelques mois.
Je suis pas sûr, moi. Je pense que t'as les joueurs.
C'est une équipe qui est perdue, tu l'as dit, Nico.
Oui, mais
nous, on a très bien vu avec Aristou une équipe qui dédoublait de passes, qui jouait, mais...
Pedro Chirivella, triangle 1-2-3 dans la profondeur.
Je
t'ai
dit, match aller 615 passes à Metz, match retour, t'en fais 416. T'en fais quasi deux fois moins chez toi. Mais tu sais plus faire de passes. Mais on en a parlé plein de fois, quand t'as un milieu de terrain, Douglas Augusto, Moussa Sissoko, Chirivella tout seul, comment tu développes du jeu quand t'as pas de mecs sur les côtés qui vont vite, qui dédoublent de passes, t'as plus aucun dédoublement de passes.
Et le problème, c'est que quand tu rentres dans une phase où le staff et les joueurs disent de ce qu'ils font est en complet désaccord, ou en tout cas ne va pas du tout avec ce que les gens, que ce soit les suiveurs ou le public, voient, tu rentres toujours dans une zone qui est quand même un peu dangereuse, parce que ça veut dire que tu essaies de te persuader d'un truc
bien
qui n'existe pas. Et ça, en général, ça se finit rarement bien.
Il y a un truc quand même, parce qu'on parle beaucoup de la deuxième mi-temps, parce que tu as les buts et que tu es incapable de revenir. Mais sur la première mi-temps, on en a parlé. Mais c'est quand même très, très vilain, en étant gentil.
Franchement, oui.
Derrière, c'est horrible.
Et ils vont rester derrière les Nantais.
Et on était tous d'accord. Et j'avais des copains qui étaient en tribune, que j'ai vu à la mi-temps, qui m'ont dit « Mais pourquoi ils ne pressent pas un minimum cette équipe ?» Tu vois que cette équipe-là avait peur, l'équipe de Metz en défense, dégagée, qu'ils étaient sous pression n'importe comment.
Ah ouais.
Et jamais, jamais, les Nantais ne sont allés les chercher.
Non, ils leur ont laissé la balle.
Rien qu'un tout petit peu.
Ouais.
Mais va les presser. Au moins, si tu ne sais pas faire de passe, essaie au moins d'empêcher l'adversaire d'en faire, en fait. Enfin, c'est là où t'as un échec total.
Quand même.
Les copains qui sont venus voir, ils t'appelaient David aussi ou pas?
Non, c'est bon, ils savaient.
Non, ils savaient, ils ont ton prénom. Non,
ils sont pas vendés.
C'est ultra minimaliste, on a l'impression que les Nantais ont peur du ballon, tout simplement. Ils n'en veulent pas.
Après une victoire à Lorient, dans un contexte où tu t'es remis la tête à l'endroit et t'as tout à gagner.
Tu peux te donner un peu d'air, c'est sûr.
La pression est toujours là sur ces joueurs. Sont-ils en phase ou pas avec ces choix? On a déjà un peu répondu à cette question pour conclure cette partie-là. Les amis, Palois nous a dit qu'il faut demander au coach. Kozza nous a dit « Moi, ça me va, on a été solide avant dans cette défense à 5 et dans ce système. »
C'est là que tu vois que t'as jamais rien qui te rassure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Trois matchs à l'extérieur cohérents, enfin... dès que tu penses que tu as trouvé une petite recette, même si c'est pas beau, les joueurs disaient bah c'est, on n'est pas beau mais on prend des points. Ouais, sauf que là t'es pas beau et t'as perdu 2-0 ouais, à domicile contre Metz.
Et moi à l'inverse, j'étais plus rassuré après la défaite contre Clermont et contre Laval
mais
qu'aujourd'hui
moi aussi,
hein. À l'époque on voyait des choses
bah,
sur
par
le
jeu, tu t'en sortiras par le jeu.
Ouais, et là aujourd'hui, c'est plus le cas.
Clairement. On parle de cette rencontre qui arrive au Vélodrome face à l'OM dimanche.
Nicolas Mangeard, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Loïc Folio, Ouest France. Simon Rongoat, Eat West. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Est-ce le bon moment pour jouer l'OM qui reste sur 3 succès? Comment se passe l'adaptation de Quentin Merlin dans son nouveau club? Un expert olympien, Mathieu Grégoire, nous donne son avis avant OM FCN dimanche.
Destiny's Child, hein?
Oui!
Survivor.
Je savais que
ça, c'est toute ma jeunesse.
Ça, c'est ta génération, ça.
T'as vu comme son visage s'est illuminé?
Comme Loïc avec l'innovateur.
Il faudra survivre au Vélodrome pour les Nantais, survivre en Ligue 1 également sur la suite de la saison. On appelle Mathieu Grégoire, expert de l'OM qui sévit dans le quotidien L'Équipe. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour à tous.
Dans quel état d'esprit on est à Marseille avant de recevoir le FC Nantes dimanche? On le disait tout à l'heure, 3 succès d'affilée, un OM revigoré par le changement de coach. Hein.
Ouais, alors je vous cache pas, mes chers amis, qu'on pense pas du tout au FC Nantes vu qu'il y a cette réception de Villers Real jeudi, qui est quand même un match hautement symbolique avec le retour de Marcelinho au Vélodrome 6 mois après son départ en catimini, bah, après un match au Vélodrome d'ailleurs, quelques jours après un match au Vélodrome, un mauvais 0-0 contre Toulouse qui s'était terminé sous les sifflets. On sait ensuite que Marcelinho avait allumé les supporters, les rendant responsables du déclin du club. Donc c'est vrai que honnêtement, tout le monde est quand même focalisé sur ça.
Donc côté Nantais, on a peut-être une opportunité finalement dans ce contexte, de venir créer un petit exploit parce que l'esprit est ailleurs à l'OM.
Je sais pas, mais c'est vrai que normalement, sur le papier, il n'y a pas trop de matchs. Disons que l'OM est aujourd'hui en pleine forme, c'est-à-dire que vous avez eu quand même les retours de la CAN ont fait du bien, les retours de blessures aussi, mine de rien, des Kondogbia, des Veretout peuvent rejouer des matchs, donc ça fait du bien. Là, le match à Clermont, le 5-1 à Clermont, il y avait beaucoup d'allants offensifs, mais il y avait aussi quand même au départ 6 joueurs dans le 11 de départ qui étaient partis à la CAN. Donc je minimise pas l'effet Gassé, et c'est vrai que ça, c'est quand même pas le bon moment pour le FC Nantes. Après, encore une fois, vous avez ce double choc en Ligue Europa qui va pomper vachement d'énergie, qui va pomper vachement de mental. C'est l'un des seuls espoirs du FC Nantes. Ouais.
Sur Jean-Louis Gasset, tu as évoqué l'incidence de la CAN sur le niveau de l'OM. Et est-ce que Jean-Louis Gasset a quand même apporté quelque chose de nouveau?
Gasset, il a apporté beaucoup de simplicité. Il a apporté de la sérénité, de la simplicité. On était sur un club qui était en train de se carboniser de l'intérieur avec des dirigeants qui faisaient leur mercato et qui montaient un peu la sauce avec leur entraîneur, qui se faisaient des repas où ça parlait mal des joueurs, où il fallait vendre tel joueur comme Klose. On avait un entraîneur qui devenait Gattuso de plus en plus fébrile. Le vestiaire aimait bien Gattuso, mais lui ne le comprenait plus. Et eux ne le comprenaient pas non plus à la fin. Gassé, lui, il est arrivé, il a dit « le passé, c'est le passé, on remet tout à zéro ». Voilà, moi, je veux pas entendre parler des soucis contractuels de Gay. Moi, je veux pas entendre parler des soucis de discipline possible de Jonathan Klose. Moi, je veux juste qu'on tire dans le même sens, on a une mission de 100 jours, et on va le faire ensemble. Il y a de la qualité dans ce groupe, il y a des bonnes personnes, et on va essayer de faire un bon travail ensemble. Et moi, j'ai retrouvé beaucoup de sourire à l'entraînement, même que ce soit avant ou après, plutôt après le Shakhtar, entre le Shakhtar et Montpellier. Vous retrouvez beaucoup de sourires, beaucoup de bonne ambiance, et c'est ça, ce dont avait besoin ce groupe en fait. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur tape dessus comme faisait Gattuso, Benassia, Longoria ces dernières semaines. Ils avaient juste besoin d'un papy, de son adjoint Ghislain Printemps qui leur donne des discours nuancés et après simplicité dans la tactique, confiance pour ses joueurs, sérénité.
Il y a un ancien Nantais qui a rejoint l'OM. cet hiver, Quentin Merlin, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur son adaptation et ce que l'environnement OM pense de ce joueur et de ce qu'il a apporté depuis son arrivée?
Il est plutôt bien vu depuis qu'il est arrivé. C'était quelqu'un qui, comme vous le savez, en territoire breton, l'OM était sur Adrien Truffert ou lui, donc c'était un peu les deux pistes principales, peut-être un peu plus Truffert. Mais du coup, on savait quand même avant le public de Marseillais, qui suit quand même la Ligue 1, qui est plutôt connaisseur, connaissait Merlin. Donc déjà, vous avez eu un accueil qui n'était ni celui d'un mec exotique, ni celui d'un joueur mystère ou d'un prospect, quoi. Là, on est vraiment sur un joueur Ligue 1 qui était connu ici. Donc les gens étaient plutôt contents de son arrivée. Après, il a eu un premier match difficile contre Lyon, où il est tombé face à un Nouama des grands soirs. Donc c'est vrai qu'il a, ce soir-là, il a galéré de fou. Mais le public n'en a pas spécialement voulu et depuis, il fait ses matchs. Il n'est pas toujours transcendant, mais il a fait certains bons matchs sur notamment la séquence Shakhtar Montpellier. Il fait deux bons matchs. Il est aussi intéressant sur le match du Shakhtar. Donc oui, on est sur un joueur qui pour l'instant est plutôt en train de réussir son intégration à Marseille.
On a souvent dit, Mathieu, à son propos à Nantes, qu'il était un excellent contre-attaquant, qu'il avait des qualités techniques au-dessus de la moyenne. En revanche, ses qualités défensives, dans une défense à 4 notamment, on les a souvent mises en cause. Il sera utilisé à Marseille uniquement dans ce rôle de piston à gauche ?
Non, mais effectivement, j'ai lu attentivement tout ce que vous faisiez dans Ouest France sur son profil, qui est très particulier, hein, de joueur finalement qui a reculé, ou en tout cas qui était plutôt un milieu à la base, et que même, je crois que le coach l'été dernier voulait remettre même un peu plus haut, je crois, peut-être en milieu aussi. Donc,
oui, c'est lui qui a souhaité jouer latéral à ce moment-là, avec l'optique des JO.
C'est ça. Donc c'est vrai que j'ai suivi ce profil qui est effectivement un peu particulier, où on sent une qualité de pied qui est effectivement très importante, et on sent qu'il est à l'aise, qu'il est très à l'aise face au jeu et qui peut apporter beaucoup comme à droite Jonathan Clauss, qui peut apporter beaucoup dans une défense à 5. Après, donc Gasset n'est pas arrêté sur ça. Là, il a joué à 4 contre Clermont parce qu'il n'avait pas Gigot, donc il s'est dit je repars sur une défense à 4. Donc il faudra aussi de toute façon qu'il soit polyvalent et qu'il sache défendre à 4. Donc on va effectivement l'attendre sur ça. On voit qu'il n'est pas emmerdé balle au pied, on voit qu'il y a une certaine faculté à répéter les courses. Après, la gestion des attaquants adverses, elle se posera, elle s'est posée, comme on se disait tout à l'heure, face à Nouama à Lyon. Et effectivement, sur des gros matchs, là, il y aura Rennes bientôt, il y aura le PSG bientôt, ou même Villarreal, on va effectivement le passer un peu plus au révélateur de ce système défensif. Là, il a commis une erreur contre Clermont, qui a amené l'égalisation de Clermont, mais ça a été sans conséquence parce que Marseille avait énormément de marge. Mais c'est sûr que va falloir être un haut niveau de concentration sur les quelques gros matchs qui vont arriver, ouais, c'est clair.
Merci beaucoup Mathieu. Grégoire, on te retrouve dans le quotidien L'Équipe, et puis peut-être dimanche Pab, tu seras pour Presse Océan, et Nico pour Ouest France. Ok, bon ben rendez-vous dimanche donc pour ceux qui seront au Vélodrome. Merci beaucoup Mathieu.
Salut Mathieu.
Merci, j'avoue, je suis quand même un peu inquiet pour vous, hein. J'espère que vous allez vous ouais. réveiller, parce que c'est que, voilà, à l'OM, on vous a peut-être pris trop de bons joueurs, là, ouais, trop d'anciens ouais, Nantais ouais. ces derniers temps. Là,
les meilleurs sont à l'OM, on s'en était rendu compte, si tu veux, ouais. on les a vus grandir, on les voit sous le maillot Olympia maintenant, c'est clair. Merci beaucoup Mathieu.
Ouais, salut. Merci les gars,
salut.
Bientôt.
Ciao, ciao. Salut, à bientôt. Mission, on va terminer avec ça, les copains, un petit regard sur ce Marseille-Nantes. On a beaucoup évolué le système, les intentions nantaises sur le match de Metz. Est-ce qu'on leur en voudra cette fois d'être un peu recroquevillé au Vélodrome et de proposer un jeu défensif? Est-ce que c'est le seul moyen de ramener quelque chose du Vélodrome?
Il y a un moment, il va falloir prendre des points quand même.
Mais oui, mais tu peux prendre des points contre Marseille. Oui, mais en fait, ils jouent mieux contre des gros.
Je pense pas que, de toute façon, Jocelyn Gourvennec va changer quoi que ce soit à sa formule. Hein. Il nous l'a dit après le match contre Metz. Il va reconduire une défense à 5 avec la possibilité, tant bien que mal, d'aller provoquer un petit peu les Marseillais sur quelques situations de transition, mais je pense pas qu'il faille s'attendre forcément à autre chose. Sur un malentendu, ça peut marcher, mais c'est quand même jouer à lancer une pièce en l'air. Hein.
Loïc, tu es sur le même...
Oui, je pense qu'il va reconduire effectivement son système avec 5 défenseurs, le retour de Moussa Sissoko et devant Simon, Mohamed ou Kadewere, avec peut-être un profil qui aura plus de vitesse.
Sauf s'il joue comme à Toulouse, avec Kadewere, Traoré sur les côtés, peut-être.
Ouais. Deux possibilités pour Jocelyn Gourvennec. On débriefera ça mardi prochain. Les amis, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Salut.
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 Sans contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.